Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Notre magazine s'arrête cette semaine sur trois anniversaires pour autant de drames, celui de la grande famine de 1932-1933 en Ukraine, celui de la disparition il y a 40 ans de Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine et figure emblématique du mouvement anticolonialiste, celui enfin de l'assassinat il y a 10 ans du premier ministre israélien Yitzhak Rabin pour avoir voulu prendre le risque de la paix. Le fléau qui s'abattit sur l'Ukraine soviétique au début des années 1930 et qui atteignit son paroxysme en hiver 1933 est souvent désigné sous le vocable de famine artificielle. Le manque de vivres, en effet, résultait non pas d'une sécheresse ou d'intempéries, mais bien de la confiscation par Moscou des denrées alimentaires indispensables à la survie de toute une population. Si par sa nature et son ampleur on parle d'au moins 6 millions de morts, la grande famine ukrainienne appartient à la catégorie des crimes contre l'humanité, reste que les historiens sont toujours partagés. Pour certains, la cible de la politique génocidaire de Staline était bien la paysannerie ukrainienne, force vitale et base démographique de la nation ukrainienne. Cette famine serait donc l'expression la plus sinistre de la politique coloniale russe en Ukraine, comme nous l'explique l'historien Étienne Thévenin, auteur de « L'enjeu ukrainien » aux éditions CLD. Il est interrogé par David Milia.
Les Ukrainiens même emploient le terme « Lyudomor », qui signifie qu'on peut traduire par « extermination par la faim ». L'Ukraine était le grenier à blé de l'Europe au début du XXe siècle. La récolte en 1932 avait même été excellente. Seulement, plusieurs millions de personnes sont mortes de faim en 1932 et 1933. D'abord parce que la récolte a été, de 1932 a été littéralement confisquée par l'État, placée dans des silos très bien gardés. Ensuite, eh bien, il a été impossible pour les paysans de se nourrir ou d'acheter de la nourriture sous quelque forme que ce soit. Un système de passeport leur interdisait de se déplacer en ville, ou alors ils étaient arrêtés, les enfants orphelins et errants étant parqués dans des maisons bien gardées où souvent ils mouraient de faim. En plus, l'Union soviétique niait l'existence de cette famine, refusait toute aide alimentaire venue de l'extérieur, de sorte que le blé récolté en Ukraine est parti ailleurs, à Moscou, mais aussi hors d'Union soviétique, ce qui permettait à l'Union soviétique d'avoir ainsi des devises au moment même où des millions de personnes mouraient de faim.
Il s'agit bien d'une famine organisée par Moscou, donc par Staline.
Staline était très bien informé de ce qui se passait. On a retrouvé les rapports multiples qui émanaient de ses représentants en Ukraine et aussi la correspondance qu'il entretenait avec ceux qui l'envoyaient en Ukraine organiser ses réquisitions. Dans une lettre du 11 août 1932, il indique bien qu'il s'agit, en renforçant ses réquisitions, de lutter contre ce qu'il appelle le nationalisme ukrainien. L'Ukraine était une république absolument essentielle dans l'Union soviétique. Grenier à blé, réservoir de matières premières, foyer industriel de toute première importance, ouverture sur la mer, tout pour constituer un État indépendant et même les communistes ukrainiens envisageaient de s'affranchir de la tutelle de Moscou.
Alors aujourd'hui, les historiens donnent plusieurs lectures de l'événement. Tous ne reconnaissent pas un génocide ou en tout cas la forme d'une famine organisée par les dirigeants soviétiques. Comment peut-on expliquer ces dissonances plus de 70 ans après l'événement ?
Je pense que certains auteurs, et en particulier auteurs russes, craignent que on ne fasse porter aux Russes d'aujourd'hui la responsabilité par héritage, entre guillemets, de cette famine subie par les Ukrainiens. Or, les Russes rappellent qu'ils ont eux aussi été au même moment victimes du pouvoir stalinien.
Pour d'autres historiens comme Nikita Struve, des nuances s'imposent pourtant. Nikita Struve est le directeur d'Imka Press, maison d'édition qui a publié pendant 70 ans de régime communiste les auteurs interdits en URSS. C'est lui qui a publié le premier à l'étranger Solzhenitsyn. Pour lui, il faut surtout incriminer la collectivisation des moyens de production, objectif central du marxisme.
C'est une famine qui a été provoquée par la collectivisation, c'est-à-dire la destruction des structures paysannes traditionnelles, la collectivisation des terres. Il ne s'agit pas de l'Ukraine uniquement, il s'agit de l'ensemble des terres agricoles de la Russie soviétique de l'époque. Mais comme l'Ukraine était le grenier à blé, c'est là où les conséquences, je dirais, criminelles de cette collectivisation se sont faites le plus sentir.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, on entend beaucoup de choses à propos de cette famine. Certains parlent de génocide, certains disent que c'est une famine comme il y en a eu beaucoup à cette époque-là, surtout dans la région. Comment on peut expliquer cette multiplicité de voix différentes sur ce fait historique ?
Je crains que le fait historique de la famine dans l'ensemble des territoires agricoles de la Russie soviétique de l'époque n'a pas été encore suffisamment étudié. Il en est question dans certaines œuvres littéraires, en particulier chez l'écrivain Grossman, qui était le premier peut-être à en parler de façon saisissante, ou dans les souvenirs de Madame Ginsburg, Aksionov, qui a elle-même participé à la collectivisation du côté des bolcheviks, des communistes, mais qui ensuite a écopé des camps, etc., est devenu l'un des grands témoins du goulag. Ça n'a pas été suffisamment étudié. Alors le génocide, ça me paraît être également une définition erronée, parce qu'il s'agissait d'un phénomène global, mais qui a touché le grenier à blé plus que les autres.
Et c'était pas destiné à l'Ukraine plus précisément, ou en tout cas c'était pas une attaque contre le peuple ukrainien en tant que tel?
Non, parce que à cette époque-là, d'ailleurs, dans ces régions-là, que ce soit la région centrale de Kiev, il n'y avait pas d'opposition entre peuple ukrainien et peuple russe, comme il n'y en a pas toujours d'ailleurs jusqu'à maintenant.
Donc les soviétiques n'ont pas organisé la famine en tant que telle?
Non, c'est mon ami Alain Besançon qui parle souvent de génocide à l'égard de l'Ukraine. Je crois que c'est historiquement une erreur.
Est-ce que les soviétiques, par la suite, ont essayé de cacher quelque chose par rapport à cette famine? Est-ce qu'il y a eu une rétention d'informations pendant des années, pendant des dizaines d'années? Comment se fait-il que le travail de l'historien est si difficile à faire encore aujourd'hui?
Bien sûr, une rétention d'informations, mais une information mensongère de bout en bout. Vous savez, pour que l'Occident ait appris la vérité sur l'extension du goulag après la publication du livre de Solzhenitsyn, alors que le goulag n'existait pratiquement plus, c'est-à-dire en 1974, c'est quand même extraordinaire. L'Occident a été abusé, médusé par rétention d'informations et surtout par contre-vérité.
Mais là, sur cette famine, j'utilisais ce terme parce que c'est encore difficile aujourd'hui à définir. Le goulag, on sait ce qui s'est passé. La famine, ça reste toujours un peu ambigu.
Oui, parce que la famine peut avoir des causes naturelles, mais en l'occurrence, il s'agissait de briser les chines de la paysannerie. Le régime soviétique s'est attaqué à toutes les classes. Il a détruit l'aristocratie, il a expulsé, détruit les intellectuels ou l'élite intellectuelle. Il a pratiquement détruit le clergé. Il s'agit de dizaines de milliers de morts, etc. Mais la grande classe, la classe la plus nombreuse, c'était la paysannerie. La paysannerie, avant la Révolution, se trouvait sur le chemin de la prospérité et donc de l'indépendance par là même. Il fallait lui casser le dos.
Cette famine, comment elle s'est organisée concrètement? On parle justement de l'Ukraine comme un grenier à blé. Comment se fait-il que ces paysans n'aient plus rien eu à manger à ce moment-là?
Mais parce qu'on les forçait à entrer dans les kolkhozes, c'est-à-dire dans les fermes collectives, etc. Ça a complètement désorganisé toute la production. Ils refusaient. Ça a été, si vous voulez, une véritable guerre, je dirais, civile. Mais sur le plan paysan, sur le plan agricole, les paysans ne voulaient pas devenir des employés de l'État. Le pouvoir était content de pouvoir mater, si vous voulez, une classe qui s'était reconstituée d'ailleurs après les famines qui ont suivi la Révolution, celle de 1922, mais celle de 1922 encore, l'Occident est venu à l'aide.
On sait d'ailleurs le nombre de morts à peu près, parce que là aussi les chiffres ne sont pas très précis.
Ça n'a pas été véritablement dénombré, parce que entre ceux qui sont morts progressivement, etc., ça n'a pas été comme le tsunami où on peut dénombrer en quelques jours, en quelques semaines les morts. Ça a duré des années, et les résultats aussi, mais il s'agit de plusieurs millions.
Alors aujourd'hui, quelle est peut-être faire un point juste pour terminer là-dessus, quelle est la position de la communauté internationale sur cette question?
On commence à oublier, l'Occident a été un peu à sa manière, enfin, je ne dis pas l'Occident tout entier, mais l'Occident a été un peu complice, par silence, des crimes sociaux du régime soviétique. Mais alors la littérature a conservé des pages saisissantes sur cette famine. Moi-même, j'ai eu l'occasion, tout jeune que je suis à l'époque, en 44-45, de voir des rescapés de cette famine et de lire des textes épouvantables sur l'anthropophagie qui régnait à cette époque-là, en particulier dans le grenier à blé.
Il y a 40 ans, qui a tué Mehdi Ben Barka, cet opposant marocain à la pointe de l'anticolonialisme ? Le voulait-on vraiment ou s'agit-il d'une bavure ? Pourquoi cette affaire retentissante n'est-elle toujours pas élucidée, malgré deux instructions judiciaires ? Pourquoi n'a-t-on toujours pas retrouvé le corps ? Peut-on espérer que le roi Mohamed VI livre à la justice les généraux de son père Hassan II, soupçonnés dans cette ténébreuse affaire ? Directeur de l'hebdomadaire indépendant marocain Le Journal, Aboubark Jamaï nous répond.
Est-ce que le régime marocain, est-ce que l'État marocain va coopérer? Écoutez, malgré les déclarations de bonnes intentions du roi Mohamed VI il y a quelques années, dans une interview donnée au Figaro où il avait dit que l'État marocain allait collaborer, il apparaît que la justice marocaine ne collabore pas réellement, et notamment sur l'aspect audition de certains témoins qui ont été demandés par le juge d'instruction français. Alors c'est compliqué politiquement parce qu'il se trouve que des hauts gradés militaires aujourd'hui qui ont des postes dans l'appareil sécuritaire très importants apparemment sont au moins impliqués, j'allais dire entre guillemets, en tant que témoins. Et là, véritablement, le régime marocain touche à quelque chose d'extrêmement sensible pour sa stabilité. Donc est-ce que l'État ira jusque-là? Ça reste une énorme question et très personnellement, j'ai des doutes sur le fait qu'il le fasse.
Alors on se souvient quand même que Mohamed VI a créé en 2003 l'instance Équité et Réconciliation qui au fait devrait enquêter sur les atteintes graves aux droits de l'homme de 1960 à 99. C'est une date clé, au fait c'est celle du décès de son père Hassan II et de son intronisation. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que justement Mohamed VI coupe avec le passé et finalement soit prêt à livrer justement à la justice des généraux qui ont servi sous son père et qui seraient responsables dans cette affaire Ben Barka?
Écoutez, moi je pense que le roi Mohamed VI est certainement désireux de ne pas retomber dans les travers du règne de son père. Maintenant, il serait aussi honnête de dire que Hassan II, vers la fin de son règne, avait lui aussi coupé avec ses propres pratiques. Que déjà pendant les années 90, les atteintes aux droits de l'homme ont considérablement diminué au Maroc. Maintenant, le problème par rapport à ce Mohamed VI, qui je pense n'est certainement pas dans un état d'esprit de retour à des camps de détention secrets, etc. Le problème avec lui, c'est qu'il est quand même attaché au pouvoir qui va avec un régime qui reste un régime autoritaire et qui reste un régime où il y a une concentration des pouvoirs entre les mains du roi, où il n'y a pas de démocratie digne de ce nom, où le Parlement a très peu de pouvoir, sinon pas du tout. Et le problème, c'est que cette architecture institutionnelle est elle-même enfante, elle-même les dérapages. Et d'ailleurs, on l'a vu, même récemment, il y a encore des gens qui meurent sous la torture dans des commissariats. Alors ce n'est plus une politique d'État, mais, si vous voulez, nous n'avons pas les institutions capables de lutter de façon efficace contre ces dérapages, qui sont plus sporadiques, qui sont, si vous voulez, moins stratégiques dans le mode de gouvernance, mais qui font toujours partie de l'ADN du régime marocain, aujourd'hui encore. Et tant que Mohamed VI n'accepte pas, si vous voulez, dans sa tête d'aller de l'avant en termes de démocratisation, qu'on reste dans des systèmes qui sont totalement fermés, autoritaires, où il n'y a pas de responsabilisation, où il n'y a pas de contre-pouvoir réel, ben le peuple marocain sera toujours à la merci d'un appareil sécuritaire qui ne pourra que déraper.
Alors au-delà des limites même du système marocain, qui pourrait donc entraver par lui-même le fait d'aller de l'avant dans cette affaire Ben Barka, dans ce dossier-là, est-ce que le fait que la France, mais aussi des pays comme les États-Unis et Israël, aient été impliqués, est-ce que cela gêne finalement l'enquête aussi, puisque tout le monde a des comptes à rendre à tout le monde?
La certitude que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne l'implication de ces trois États, entre guillemets, elle vient d'Israël, puisqu'il y a eu un débat quasi public sur l'implication du Mossad dans l'enlèvement de Ben Barka, et aujourd'hui, les bouquins d'histoire sur le Mossad, vous trouverez toujours un chapitre sur l'affaire Ben Barka, parce qu'il se trouve que le débat qu'il y a eu a mené à la démission du chef du Mossad à l'époque, au milieu des années 60. Donc nous savons, grâce à ce travail d'historien, et grâce à la polémique qu'il y a eu en Israël, que le Mossad est effectivement impliqué dans l'enlèvement de Ben Barka. Concernant la CIA, nous avons des témoignages marocains qui parlent donc de formation des agents marocains par des agents de la CIA. La France, écoutez, c'est quand même difficile de croire qu'il n'y ait pas eu au moins un niveau, même un temps soit un peu subalterne, de l'État français, puisque des policiers ont participé à cet enlèvement de Mehdi Ben Barka. Et puis, si vous voulez, ce qui corrobore un peu cette thèse de conspiration de plusieurs États, c'est que Mehdi Ben Barka avait un profil international et qu'il embêtait pas mal de monde à l'époque. Mehdi Ben Barka était en train d'organiser à l'époque la tricontinentale, qui était, si vous voulez, une espèce d'organisation internationale sud-sud des mouvements anti-impérialistes, anti-coloniaux, qui donc embêtaient pas mal de monde et qui étaient perçus par les États-Unis comme étant un peu trop pro-soviétiques. Puis bon, c'est les années 60, je veux dire, on était en pleine guerre froide et donc, si vous voulez, et Lumumba avait été assassiné, on avait installé Mobutu Sese Seko, etc., etc. Donc on était véritablement dans une situation où la guerre froide était réellement ouverte, si vous voulez. On était dans le feu de l'action de la guerre froide. Et donc que Mehdi Ben Barka disparaisse à ce moment-là, si vous voulez, rentre dans le cadre de la géopolitique de l'époque. Ce n'est pas quelque chose de totalement invraisemblable.
Alors Ben Barka, on l'aura compris, gêné à l'époque, même beaucoup, au point que finalement donc, on l'enlève. Mais est-ce qu'il gênait au point qu'on veuille l'assassiner?
Écoutez, d'abord, il y a un véritable point d'interrogation sur la volonté de ses ravisseurs. Et la volonté des commanditaires de ses ravisseurs. Et pour ma part, je pense qu'il y a peu de doute que la monarchie marocaine était derrière cet enlèvement. On ne peut pas imaginer une seconde que Oufkhir et Dlimi, dont l'implication est aujourd'hui avérée, qui étaient donc deux éléments très haut placés, très proches du roi, du régime marocain, aient pu agir sans consentement, mais à la limite, sans ses ordres, carrément. Donc l'implication de la monarchie marocaine, pour moi, est difficile à nier. Maintenant, est-ce que la volonté de cette monarchie marocaine, de ce régime marocain, était de tuer Ben Barka? Là, on a un vrai point d'interrogation. D'ailleurs, Maurice Butin, qui est l'avocat de Béchir Ben Barka, le fils de Mehdi Ben Barka, qui aujourd'hui suit l'affaire, dit lui-même qu'il pense que l'objectif n'était pas de tuer Ben Barka. C'était probablement de l'enlever, de le ramener au Maroc et d'essayer de lui faire entendre raison. C'était, vous savez, c'était en 65, c'était juste après les émeutes de 1965 à Casablanca. Le Maroc était dans une position assez compliquée puisque c'était l'année de la suspension du Parlement, des lois d'exception, etc., etc. On était dans l'état d'exception à cette époque. Et donc Hassan II était dans une situation qui était compliquée. Donc peut-être qu'il était plutôt dans une stratégie de rapprochement, mais en sa faveur et non pas en faveur de ses opposants. Et comme il a toujours eu une relation très ambiguë avec Ben Barka, il est possible aussi que l'enlèvement de Ben Barka n'avait pas, ou la rencontre avec Ben Barka n'avait pas forcément pour objectif son assassinat.
Aujourd'hui, la figure de Ben Barka pour les Marocains, est-ce qu'elle reste une figure importante ou elle reste, disons, une figure importante seulement pour l'intelligentsia ou le monde politique?
Écoutez, pour ceux qui ont une conscience politique, Ben Barka est parmi nous, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que Ben Barka a été une des grandes figures de la libération du Maroc, de la lutte pour l'indépendance. Donc c'est un monsieur qui ne tirait pas sa légitimité seulement de l'opposition à Hassan II, il tirait d'abord sa légitimité de son combat nationaliste. Personne ne doute, je veux dire, de cela. Ça a été un très grand patriote, un très grand nationaliste. Et deuxièmement, c'est le fondateur de la gauche marocaine. C'était l'un des co-dirigeants du Parti de l'indépendance qui a amené l'indépendance. Et quand il y a eu le schisme au sein du Parti de l'Istiqlal, qui a eu donc la création du Parti socialiste marocain, c'était lui le patron de ce parti. Donc tout, si vous voulez, c'était le théoricien du parti, les documents fondateurs d'un point de vue idéologique du parti, il en est l'auteur, etc., etc. Donc il est le géniteur idéologique de la moitié du champ politique marocain. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que plusieurs partis, quand ils organisent leur congrès, eh bien, quand vous entrez dans la salle de congrès, vous avez invariablement un énorme portrait de Mehdi Ben Barka accroché au mur. Alors que parfois, deux partis ayant ce portrait-là sont des ennemis politiques, mais tous les deux se réclament de l'héritage de Mehdi Ben Barka. Deuxièmement, par rapport à cette donc stratégie du pouvoir de vouloir quand même essayer de dépasser les dérapages du passé, eh bien, il reste central, puisqu'il s'agit de l'affaire emblématique en termes d'atteinte aux droits de l'homme. Je veux dire, c'est le crime politique dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude, j'allais dire. Et de ce point de vue-là, il reste emblématique de la volonté du pouvoir d'aller réellement de l'avant. C'est-à-dire qu'on jugera le pouvoir sur ce qu'il va faire dans le ferme Barka. Et jusqu'à présent, ben, cet examen-là, le pouvoir ne l'a pas encore passé.
Autre dramatique anniversaire ces jours-ci, celui de l'assassinat d'Itzhak Rabin. 10 ans déjà. Cet homme politique israélien aura rempli les plus hautes charges à la tête de l'État et aura payé de sa vie d'avoir opté pour la paix au Proche-Orient. Qu'en est-il aujourd'hui de son combat? Nous en parlons avec David Chemla, le président en France de Shalom Arshav, La paix maintenant. Il vient de publier aux éditions Liana Levy, Bâtisseur de paix, un livre d'entretien avec des Israéliens et des Palestiniens qui œuvrent aujourd'hui pour la paix entre leurs deux peuples. David Chemla nous dit tout d'abord quel souvenir il a gardé de Rabin.
D'un homme qui a fait un chemin dans sa vie qui l'a conduit, je dirais, comme étant un des artisans militaires de la construction de l'armée israélienne, qui a été celui qui a dirigé cette armée pendant la guerre des six jours, à être devenu ensuite l'artisan de la paix, c'est-à-dire un homme qui a compris moment dans son parcours que seule la paix pouvait assurer la meilleure sécurité pour l'État d'Israël et que c'était un engagement de sa vie et pour lequel d'ailleurs il est mort malheureusement. Il a fait donc ce chemin très très important et c'était quelqu'un qui était très très respecté en Israël.
Alors justement, on tue ce messager de la paix, mais comme dit le dicton, jamais le message n'est tué. Est-ce qu'on peut dire que 10 ans après l'assassinat de Rabin, au fait, ce sang de Rabin aura finalement enfanté de nouveaux militants qui, convaincus depuis, travaillent ardemment à cette paix, à construire cette paix?
Je pense d'abord que Rabin, il avait compris ce que ressentait la majorité du peuple israélien, à savoir cette volonté de trouver une solution politique. D'autres l'ont suivi et continuent à lutter dans ce sens. Ce sont ce que j'appelle, moi, dans un livre d'entretien que je viens de rédiger, les bâtisseurs de la paix, c'est-à-dire des gens qui, de part et d'autre, se sont engagés pour non seulement se reconnaître l'autre, reconnaître l'existence et l'agitimité de l'autre, mais en plus ont réussi à déplacer les blocages existants inhérents aux deux sociétés pour pouvoir prôner des solutions de paix. Et il faut bien comprendre, je crois qu'il y a le niveau politique qui, lui, agit, mais il y a aussi le niveau de la société civile qui, elle, peut aussi faire bouger le politique. Et ça, je crois que c'est une vieille tradition juive, à l'époque biblique, les prophètes disaient au roi aussi ce qu'ils pensaient, ce qu'il fallait faire, et je crois que la société civile aujourd'hui, de notre époque, a aussi un rôle important à jouer pour encourager en tout cas le pouvoir politique à prendre les bonnes décisions. Donc ces bâtisseurs de paix reflètent cette société civile, mais ce sont des bâtisseurs de paix de personnalités profondément engagées, enracinées dans les deux sociétés respectives. Du côté israélien, j'ai interviewé des anciens responsables militaires, des anciens chefs d'état-major, des écrivains comme David Grossman, du côté palestinien, des leaders du Fatah ou du FDPLP, des hommes qui ont, par leurs actions, été conduits souvent à faire de la prison suite à des actions militaires ou militantes, et qui sont arrivés à la conclusion qu'il fallait dépasser les blocages pour pouvoir se reconnaître. Et je pense que c'est l'héritage un peu de Rabin qui continue, et je pense que de toutes les façons, comme vous le disiez, le messager a été tué, mais pas le message, et d'autres ont pris le relais.
Est-ce que ces militants, je dirais qu'ils soient israéliens ou palestiniens, sont aujourd'hui plus nombreux qu'ils ne l'étaient à l'époque? Et est-ce que finalement, ils se voient encouragés dans leur action par ce qui se passe actuellement ou parce qu'ils ne sont pas satisfaits?
À l'époque, je pense qu'il y avait, après la signature de l'accord d'Oslo, un grand espoir de paix dans les deux sociétés. Les deux sociétés palestiniennes et israéliennes, vous savez, ne se connaissent pas. Elles se côtoient sans se connaître. Et après les accords d'Oslo que Rabin avait signé avec Arafat, il y a eu une grande ouverture des sociétés l'une vers l'autre. Et malheureusement, ça a été suivi par une vague d'attentats, ça a été suivi par la deuxième intifada qui a éloigné ces deux sociétés. Il y a eu beaucoup de découragement, de désespoir de part et d'autre. Aujourd'hui, je crois qu'après 4 ans d'intifada, il y a une lassitude au sein des deux sociétés, une fatigue. Les deux sociétés veulent la paix, veulent y arriver, et ils attendent que le niveau politique prenne les bonnes initiatives pour cela. Je crois que le désengagement de Sharon de Gaza, enfin le plan de désengagement que Sharon a appliqué à Gaza, est quelque part une conséquence de l'initiative de Genève que les bâtisseurs de paix dont je parlais avaient prônée, une initiative de Genève qui avait été signée il y a 2 ans. Comme je le rappelle, c'est un accord de paix virtuel signé entre des personnalités de part et d'autre et qui montrait qu'il y avait des solutions possibles au conflit. Donc la seule différence que je vois entre Rabin et Sharon, c'est que Rabin reconnaissait les Palestiniens et avait prôné donc une reconnaissance réciproque, alors que Sharon a appliqué son plan de façon unilatérale. Mais vaut mieux déjà, j'irai aller dans ce sens parce que la solution sera de toute façon un jour ou l'autre celle de la création d'un État palestinien à côté d'Israël dans les territoires aujourd'hui encore occupés. Donc Sharon a appliqué ce principe à cause de la réalité, à cause d'une vision très pragmatique de l'impossibilité de résoudre militairement le conflit. Et aujourd'hui, je crois que les militants sont réconfortés par ce qui s'est passé, le processus est encore long. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Vous savez, ce sont des peuples qui sont très traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Les Juifs ont un lourd passé derrière eux dont il faut comprendre la portée aujourd'hui dans la politique israélienne, parce que même s'ils disons, la puissance militaire, ils se sentent malgré tout aujourd'hui encerclés dans une situation où ils doivent constamment se défendre et, pour pouvoir survivre. Et les Palestiniens, d'un autre côté, sont occupés, ont besoin de reconnaissance de leur dignité, ont besoin de reconnaissance du tort et du préjudice qu'ils ont subi suite à la création de l'État d'Israël. Et donc, il faudra bien trouver un compromis. Ce compromis sera basé sur l'abandon d'une part de rêve de part et d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Et je pense qu'on y arrivera. Malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de préjugés à faire tomber. C'est le sens de l'histoire, quoi.
Fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine.